Cette soirée entre les mains de Dieu. Ok. Super, alors je vais prier. C'est parti. Père, merci pour cette soirée, merci pour cette journée qui a commencé lorsque nous nous sommes levés, Père. Et tu avais déjà toutes choses entre tes mains, et ce soir est encore entre tes mains, Père, sous ta direction, sous ton contrôle, sous ta souveraineté. Et je te demande, Seigneur, que ton esprit, l'esprit de vérité, puisse nous animer ce soir, puisse nous remplir, nous convaincre, puisse nous parler, Seigneur, ce soir, puisse déposer sur nos cœurs des choses qui lui font plaisir. Et Seigneur, n'hésite pas à intervenir ce soir, n'hésite pas à faire de nos vies des vies qui reflètent ta gloire, n'hésite pas à nous transformer, à nous amener plus loin, parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on veut, qu'on fait appel à toi, Seigneur, c'est parce qu'on croit que tu as le meilleur pour nous et que ce meilleur-là va produire des, va est réservé pour tes enfants. Alors je veux te demander, oui Seigneur, en tant qu'enseignant, peut-être ce soir, je veux te laisser le contrôle de ma bouche et tout ce qui a été préparé, Seigneur, c'est toi maintenant qui apporte ça et qui vient déposer tout ça sur les cœurs. Je te remercie, Seigneur, de présider cette soirée. Je te remercie de glorifier ton nom par le précieux nom de Jésus en lequel on se rassemble ce soir. Amen. Amen. Super. Cool. Oh purée, le moment trop bon de la soirée, c'est ce moment-là en fait. J'aime trop quand Claudia, elle me regarde déjà parce qu'on a parlé tout à l'heure. Elle connaît le verset par cœur. Ce soir, c'est le temps du verset. Alors, vous avez des feuilles sur vos chaises, mais ce n'est pas pour réciter le verset. Je vous rassure. À toutes les personnes qui ont cru que ce soir on allait devoir écrire, etc. Gardez bien vos feuilles sous la main. Ça servira pour plus tard. Et je vous rassure, c'est pas pour le verset. Alors. Qui c'est qui a envie, qui c'est qui a appris, qui c'est qui a reçu la force cette semaine d'apprendre ce verset par cœur? Parce qu'il n'est pas très long, mais ce qu'il dit, c'est un petit peu dérangeant, c'est un petit peu gênant pour celles et ceux qui seraient encore pas convaincus de la parole de Dieu. Ok? Qui c'est qui a envie de la porter ce soir? Avec la. Ouais, Rebecca, vas-y. Alors, les micros sont là. Si vous voulez les faire circuler, il faut juste appuyer sur le petit bouton.
Alors, vous ne commettrez pas de vol et vous ne ferez, enfin c'est pas ce mot-là, mais vous ne
C'est pas
ferez,
grave, tu peux
vous
utiliser l'autre.
n'useriez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Lévitique 19, verset 11.
Oui, super. Vous pouvez dire avec vos mots, le temps que l'idée du verset reste inchangée, c'est aucun problème. Quelqu'un d'autre? J'ai toujours aimé les gens qui se battent pour ça. Vas-y Raymond.
Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres.
Ok, super. La référence?
Lévitique 19, 11.
Super. Super. Nickel. C'est un verset qui est clair. C'est un verset qui nous avertit de ne pas commettre des choses que Dieu n'aime pas. Et on va voir ensuite si on le fait, qu'est-ce qui se passe. Et si on ne le fait pas aussi, qu'est-ce qui se passe. Le premier jour. C'était, comme d'habitude, de revenir sur la leçon précédente, la leçon qui parlait de conseils. Et j'aimerais justement, on va un petit peu pouvoir échanger ce soir, mais qu'est-ce qui a été sur vous, qu'est-ce qui a été dans vos cœurs, on va dire, imprégné en ayant lu ces commentaires? Qu'est-ce que vous avez gardé de cette leçon? Qu'est-ce qui vous a impacté? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Peut-être vous avez expérimenté quelque chose cette semaine suite à cette leçon. Est-ce que vous avez envie de partager, d'encourager quelqu'un ce soir? Allez-y, je vous laisse la parole. Si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez revenir dans vos notes. Oui, le jour numéro un, la question numéro, enfin, la question première, c'est simplement qu'est-ce qui vous a impacté, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être que vous êtes encore en train de, oui, on peut donner le micro. Peut-être que vous êtes en train encore de creuser la leçon et c'est pas un problème. Ok.
Ouais, donc moi, ce qui m'a impressionné, c'est de s'entourer d'un grand nombre de conseillers.
Ok.
Et souvent, j'ai l'habitude de faire les trucs dans mon coin, quoi. Donc maintenant, je comprends pourquoi ça réussit pas souvent.
Super. Alors c'est vrai qu'on peut avoir on peut prendre de bonnes décisions tout seul, c'est pas un problème, mais la parole de Dieu nous encourage à avoir des conseillers nombreux autour de nous. C'est un plus. C'est un conseil, c'est un conseil que Dieu nous donne, c'est pas une obligation, c'est faites-le. Et puis, Francine, je me souviens, nous avait encouragé sur une expérience qu'elle avait eue en s'entourant de conseillers. Est-ce que quelqu'un d'autre a capté dans la leçon précédente ou dans les commentaires quelque chose qui l'a impacté, qui veut raconter? Aristide, vas-y. Restez appuyé.
Ah, c'est ça. Ah, ben, il y en a deux. Hein. Oui, Dieu et sa parole, bien sûr, les conseils, les conseillers, et surtout prendre son temps, quoi. Faut pas se presser, même si peut-être si on a un truc voilà, qui a changé et tout ça, là, faut, et c'est marqué dedans, il faut prendre son temps, quoi. Faut pas se presser.
Super. Vas-y, Ghislaine.
Moi, je voudrais dire que j'ai beaucoup de mal à demander conseil à quelqu'un. Parce que je ne sais pas qui est bon, qui est conseiller autour de moi. Et puis, j'ai aussi un petit peu de méfiance. Et puis, ce n'est pas facile de choisir la personne qui va vous conseiller, en fait. Possible se tromper et avoir pas un conseil approprié. Mais je voulais quand même raconter une petite. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. J'étais chez Evelyne, notre sœur, assistait à une réunion de Thermomix
D'accord.
avec Mathilde.
Oui.
Et puis voilà, bon, ça c'est cher et tout. Et puis il y a Mathilde qui m'a dit, mais écoute, tu as pas mal d'appareils chez toi et il y a des choses que tu vas plus utiliser si tu as un Thermomix. Pourquoi tu ne vendrais pas? On m'a donné ce conseil-là. Jamais j'aurais pensé moi-même. Vendre des trucs, jamais j'aurais pensé. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Et j'ai mis donc à mon travail, on a un forum, j'ai mis dessus. Une collègue m'a donné le site Poupette Shop, j'ai mis dessus.
D'accord.
Et l'idée m'est venue de vendre même au-delà que des appareils électroménagers. Eh bien, ça a marché au-delà de mes espérances. Dieu a béni. J'ai été assaillie de commandes. Sur le forum, j'avais 41 conversations, alors que d'autres en ont deux ou trois. Alors, tout le monde était pâté. Je me dis, waouh, t'es la reine du forum. Mais en tout cas, là, je suis à plus de 200 euros de vente. Je suis très contente. Donc, voilà, quoi. Et puis, j'ai fait une réunion qui va m'apporter 100 euros. Je vais commander avant 5 dates, j'ai encore 100 euros. Donc, au total, 400 euros de réduction sur mon Thermomix.
Excellent, super. Et donc, tu inviteras tous les membres de la formation à manger un bon repas Thermomix, alors. Ok, une dernière réponse. Vas-y, Ézéchiel. Si on peut lui transférer le micro, pardon. Bah, c'est super, ouais. En tout cas, merci Gisèle.
Alors ouais, alors il y a, moi j'ai un résultat en tête. Enfin, pour ce qui est du conseil, on va dire que j'ai surtout écouté ton conseil par rapport à, je veux dire, si on a un projet, enfin, comment dire. Sur le fait d'identifier les priorités avant de mettre en place ses désirs, tout ça, enfin, ce qu'on veut. Enfin, bref, voilà. Donc, moi, en gros, récemment, j'avais un objectif. C'était un achat.
OK.
Ouais. Bon, enfin, mes parents, ils sont au courant, ils savent de quoi je parle. Mais on va dire que bon, moi, dans mon quotidien, je suis très quand j'ai du temps libre, j'aime bien jouer. Je suis fan, tout ça, enfin tout le reste. Et on va dire que là, depuis un certain temps, il y en a certains qui sont au courant, enfin j'ai envie d'acheter un nouveau petit clavier.
Ok.
Tu sais,
Un
pour
instrument de musique.
un instrument de musique. et j'étais sur le point de tout vendre. au début, je me suis dit, je vais mettre ça en pratique. Enfin, ce que j'ai appris en pratique, j'en ai parlé avec Océane. J'ai dit, je vais vendre la télé, la Play, tout ça, tout. Ouais, tout ce qu'il y a en bas. Et on en a parlé. J'ai dit, je vais donner ma dîme, je vais prier. Enfin, je vais faire ce qu'il faut faire avec en premier. Et pour le reste, enfin, vu que le prix il était plus élevé que ce qu'elle aime rester, j'ai dit, je vais prier tout ça. Et j'en ai parlé à ma parole. Je me suis pris un gros stop.
Ok.
Ouais, enfin bref, voilà. Et je me suis dit, bon, voilà quoi, bon, t'as vu. Enfin, voilà, quand maintenant tu fais ce que tu veux et tout. Et ouais, là, récemment, il y a ma mère qui m'a dit qu'elle était d'accord. Et finalement, je pourrais accéder.
Pourrais faire ce que tu as prévu de faire.
Ouais, voilà. Parce d'accord. Que ouais, Dieu a seulement vu le cœur, c'est tout.
Super. Bah, parfois, il y a des temps de réflexion qui sont nécessaires et pourquoi pas, nickel. Ok, super. Bah, merci pour vos retours. Pour moi, pour Mathilde et moi, surtout, par rapport à la leçon qu'on avait à travailler, etc., les commentaires qui nous ont beaucoup parlé, on l'avait vraiment surligné, c'est l'histoire de Pierre et des 6 autres disciples. C'est décrit dans Jean 21, versets 3 à 11. C'est quand Jésus leur dit de jeter le filet à droite de la barque. Et qu'ensuite, ils sortent beaucoup de poissons. Et en fait, dans les commentaires, il y a la phrase suivante qui est dite, qui est écrite, c'est « Lorsque nous savons exactement ce que le Christ veut que nous fassions et que nous obéissons, nos efforts sont beaucoup plus productifs. » Ça nous avait vraiment percuté. Mais le problème, enfin pas le problème, mais cette phrase-là, en fait, elle tombait à pic dans la saison de vie où on était. Dans la période de vie où on était, à ce moment-là, on faisait un constat, et moi surtout, je faisais un constat sur ma vie, et je me suis dit, je peux faire plein de choses qui sont bonnes pour moi, qui sont bonnes pour l'Église, qui sont bonnes pour les gens de ma famille, etc. Des choses bonnes, mais finalement porter que peu de fruits. D'accord ? Parfois, on peut faire des choses qui sont bien, mais on voit que le résultat, c'est une petite goutte d'eau dans un océan, alors que Dieu comporte beaucoup de fruits. Et intentionnellement, du coup, j'ai cherché, j'ai creusé pour savoir ce que Dieu attendait de moi. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur cette leçon, enfin sur ce petit paragraphe du chapitre du premier jour. Et j'aimerais développer en vous conduisant à ces points-là. Donc, j'aimerais vous dire qu'est-ce que Dieu m'a montré dans ces temps-là. Qu'est-ce que Dieu m'a mis sur mon cœur, justement, dans ces temps-là, pour que je puisse porter un jour beaucoup plus de fruits que ce que je n'en avais. Donc, la première chose que Dieu m'a donnée, c'est que Dieu a attiré mon regard, c'est sur le point suivant, le point numéro 1. Donc, Dieu m'a donné des talents et je dois les faire fructifier. C'est des termes qui reviennent dans cette formation. Mais oui, Dieu m'a donné des talents et je dois les faire fructifier. Ça veut dire de les développer avec excellence. Et j'aimerais en fait vous décrire un petit peu des exemples que j'ai mis en pratique. Et on va voir ensemble des points que j'ai notés sur ce tableau. Je vais les dire à l'oral pour ceux qui sont sur le net. Mais voilà ce qu'il en est ressorti. Donc, l'exemple numéro 1, en fait, dans mes talents, c'est que je suis persuadé que Dieu m'a donné le don de jouer de la batterie. Vous le savez, vous m'avez déjà vu, etc. Depuis l'âge de 10 ans. Mais pour faire fructifier ça, donc j'ai compris mon don, ok, c'est un de mes dons, c'est la batterie. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Et finalement, qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que je le fasse fructifier? Et j'aimerais vraiment vous donner des exemples de qu'est-ce que j'ai mis en pratique intentionnellement pour pouvoir développer ça. Et je crois que ça peut vous parler. Donc, le premier, c'est donner des cours pour transmettre plus loin. Et c'est ce que j'ai écrit sur le tableau, le point numéro 1. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça fait quand on donne des cours? Qu'est-ce que ça fait quand on transmet plus loin? On forme la succession, on forme la relève. Et c'est ce qui est important de souligner. C'est mon point numéro 1 que j'ai noté sur le tableau. Former la relève, former la succession. Si vous avez un talent, peut-être que ce que Dieu vous appelle à vivre ou à faire, c'est de former la relève, de former une succession. Il ne faut pas que ça s'arrête juste à vous et puis c'est terminé. Vous avez compris? Le deuxième point, j'ai commencé à écrire une méthode de batterie, un livre où il y a des partitions, il y a des explications, etc., un cahier de notes, pour synthétiser tout mon savoir et apporter quelque chose de sérieux aux élèves à qui j'enseigne la batterie. Et qu'est-ce que ça produit? Ça laisse une trace écrite derrière moi. Un jour, on va quitter cette terre, et qu'est-ce qui va rester? C'est les écrits. C'est ce qui est, on le dit souvent, les livres, etc. La parole de Dieu va rester, etc. Vous voyez? Donc oui, laisser une trace écrite peut être un des axes que vous pourriez développer aussi dans votre vie. Construire un blog, c'était l'étape suivante. J'ai construit un blog, il n'a pas encore été mis à jour, enfin, il n'est pas encore sorti, mais il est dans les bacs, pour apporter encore plus de vécu et d'expérience. Tout ce que je pouvais donner dans les cours de batterie, quand je le fais en studio, je me suis senti limité à un moment de pouvoir donner des explications ou des témoignages ou du vécu, etc., que je me suis dit, ça, on ne peut pas le faire vraiment en studio. Comment je peux le transmettre? Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ça, ou qu'est-ce qu'il y a derrière ça que j'ai même pas tout de suite réalisé? C'est que j'ai élargi ma sphère d'influence. On peut toujours impacter autour de nous, et c'est très bien. Certains, vous allez impacter une personne, deux personnes. À votre travail, vous êtes peut-être devant des centaines de personnes, etc. Mais élargissons notre sphère d'influence, et ça peut aller au réseau, ça peut aller sur, le régional, international, national, international, etc. Ça peut aller très loin, et quand on est prêt, je crois que Dieu ouvre des portes. Donc, élargir notre sphère d'influence, et je crois qu'on est appelé, quand on est de bons exemples, quand on est des gérants fidèles, à élargir nos sphères d'influence et à impacter les gens. Et la quatrième chose que j'ai fait pour faire fructifier ce talent-là de la batterie, c'est que j'ai joué à l'église, j'ai décidé que je veux jouer dans une église, je veux jouer pour le Seigneur, je veux servir Dieu dans sa maison. C'est ce que ça a produit, servir Dieu dans sa maison. Okay, on peut le faire à l'extérieur, on peut faire, mais je crois que Dieu nous donne aussi des talents pour servir dans sa maison. Et voilà ce que ça a fait. C'est ce que ça a produit, ce que ça a développé, et j'y suis encore, j'y travaille encore, et pour l'instant c'est les étapes où je suis, elles sont pas figées, on verra comment Dieu conduit les choses, mais c'est ce que j'ai été inspiré à faire. Donc Dieu peut aussi se servir de vous. Parfois on peut être là dans des saisons, si vous passez dans la même saison de vie que moi il y a quelques mois, peut-être que vous vous posez des questions, mais comment je peux aller plus loin, etc. Peut-être ce sera vos réponses ce soir. Le deuxième exemple, c'est que, en faisant un petit peu l'état sur ma vie, des dons, des talents, des capacités que Dieu m'a données, j'ai découvert un peu plus tard que l'âge de 10 ans, où j'ai commencé la batterie, j'ai découvert que j'avais une fibre dans le travail manuel, dans les dons de création, créativité, de construction, etc. J'ai vraiment un intérêt là-dedans, et j'ai commencé à le développer. J'ai commencé à le développer comment ? Pour le faire fructifier, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici même, au niveau local, parce que je ne vais pas faire tout le comeback sur ma vie adolescente, etc. Vous l'avez vu, il y a quelques mois, j'ai imaginé un nouveau hall d'accueil pour l'église. Il fallait l'imaginer, concevoir le chantier. D'abord sur papier, sur des plans, donc il y a une partie imagination, créativité, etc. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a répondu à des besoins. Je l'ai fait aussi pour répondre à des besoins, mais ça a répondu à des besoins, c'est mon point numéro 5. Peut-être que ce que vous devez développer, ça doit répondre à des besoins. Et Dieu est toujours derrière les projets qui répondent à des besoins. Pourquoi? Parce que ça sert les gens, ça sert les autres, et c'est un des attributs de Dieu, que Dieu est vraiment serviteur. Il l'a montré au travers de son Fils. Donc, répondre aux besoins. Le deuxième point que j'ai mis en place pour faire fructifier mon don dans ce qui est manuel, etc., c'est qu'il fallait conduire le projet pour une nouvelle façade de l'Église. On avait ce souhait-là, on a compris qu'il y avait un besoin, et il fallait le faire, il fallait se lancer, il fallait aller plus loin que juste une idée ou juste une demande, etc. Donc il fallait conduire vraiment le projet dans les détails. On l'a fait en contactant un architecte, etc., mais en se mettant intentionnellement à l'œuvre. Et qu'est-ce que ça a fait? C'était qu'il fallait se projeter. Parce qu'une façade, c'est pas juste une façade et puis on fait joli devant. Non. Se projeter, ça veut dire qu'est-ce que notre Église doit refléter, qu'est-ce qu'on attend, vers où, comment on se voit, etc. Et c'est des discussions qu'on a dû avoir en interne pour pouvoir réaliser ce projet-là, pour pouvoir conduire ce projet-là. Et se projeter, ça peut être un des points justement qui vous manque. Peut-être que vous êtes focalisé peut-être juste sur votre saison de vie ou à la fin de l'année, etc. Mais peut-être se projeter vous ouvrira les yeux sur waouh, qu'est-ce qui est possible de faire plus tard. J'ai encore pas les moyens, j'ai encore rien, mais je peux prier pour waouh, qu'est-ce que je rêve. C'est important de se projeter. C'était mon point numéro 6. Et ensuite, réaliser les travaux avec une équipe. Donc ça, c'était la partie hall d'accueil. On va bientôt passer à la partie façade. Mais réaliser les travaux avec une équipe, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'il fallait que je développe mes qualités de leader. Et je crois que c'est ce qui a été mis au profit dans ma vie, dans cette saison-là où on a tout cassé et on a tout refait. Et pour moi, c'était vraiment un challenge de déléguer les choses que je savais faire. Mais peut-être que d'assurer la conduite d'un chantier, c'est pas seulement faire, mais c'est aussi prendre un peu plus de recul et élever les autres personnes. Donc déléguer, encourager les autres, responsabiliser les autres. Et je crois que si vous sentez au fond de vous-même que oui, vous êtes un leader, que il n'y a pas besoin de leader 100 personnes, mais que pour votre foyer, pour ici à l'église, pour votre travail, etc., vous avez peut-être besoin justement de comprendre que déléguer c'est important, que encourager, responsabiliser. Raymond dit souvent qu'il encourage ses collègues et tout ça, ça impacte les gens et ça touche tous les domaines de notre vie. Ok? Donc ça, c'était le point numéro 3. Donc, de ma façon de faire fructifier le don dans tout ce qui est manuel que Dieu m'a donné. Et j'aimerais... Je vais un peu vite parce que je suis excité de la porter. Donc, je reprends le point, le grand axe, pourquoi je vous ai décrit tout cela, c'était que Dieu m'a dit... Regarde aux dons, aux talents que je t'ai donnés et fais-les fructifier, donc développer avec excellence. Ça, c'était la raison principale de tout ça. Le deuxième point, c'est que Dieu m'a parlé clairement, m'a fait connaître des choses précises sur ma vie, notamment au travers de prophètes, où j'ai des traces écrites, où j'ai pu me replonger, vraiment chercher... analyser, etc., ce que j'ai reçu, afin qu'elle se produise. Dieu parle, il veut que ça se produise. On a le choix. Et un jour, quelqu'un est venu me dire, Luc, si un prophète te dit une parole et tout, ça va s'accomplir. J'ai dit, tu sais, si le prophète dit que tu vas être menuisier et que toi, tu fais tout dans ta vie pour être plâtrier, la parole du prophète ne va pas s'accomplir. Tu vas être plâtrier, je te l'assure. Mais s'il te dit d'être menuisier, s'il te dit que Dieu a à cœur vraiment que tu deviennes menuisier, analyse cette phrase, analyse ça dans la prière, etc. Et regarde, parce que menuiser, c'est peut-être le super chemin, la voie que Dieu a pour toi, qui va t'amener du succès sans frustration et en portant beaucoup de fruits ensuite. Plâtrier, tu vas peut-être réussir, mais c'est peut-être pas le meilleur pour toi. Ok ? Donc, analyser et revenir à ce que Dieu nous a dit. Et l'exemple que j'aimerais vous donner, il y a une parole qui m'a été dite il y a 3 ans. C'était la suivante, c'était qu'une onction d'enseignement allait arriver dans ma vie, une onction d'enseignement de la parole allait arriver dans ma vie. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais enseigner ? Alors, je donnais des cours de batterie, mais c'était l'onction d'enseignement pour la parole, d'accord ? Donc, je me suis dit, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vais enseigner ? Et je cherchais toutes sortes de sujets. J'étais plus dans l'attitude de me dire, ça me passionne pas. Si je dois enseigner la parole de Dieu sur, les nombres et tout. Enfin, oh là là, non. Enfin, j'étais plus dans cet aspect-là, en fait. Plus comme quelque chose qui devait être lourd, etc. Et l'année dernière, ça a mis quelques années, ça a mis quelques années à se révéler à mon cœur. On était avec Mathilde en train de rentrer d'un week-end, on était sur l'autoroute en train de rouler, et puis Mathilde était un peu KO, elle somnolait à côté de moi, et moi je roulais comme ça, et je pensais à Dieu. On revenait d'un week-end de louanges, on avait vraiment passé du temps avec tous les leaders de louanges de France, enfin, il y en a une grosse partie, on avait vraiment vécu des temps forts, et là je pensais à tout ça, je louais Dieu dans mes pensées, et d'un coup, très clairement, j'ai eu la pensée, mais tu vas pouvoir enseigner les finances. Et là, j'ai fait, mais mince. Et on était déjà dans le cursus de faire une formation finance pas loin de Genève. Je ne l'avais pas vu. Ce n'était pas devant mes yeux. Ce n'était pas clair et limpide devant moi. Et pourtant, c'est quelque chose qui me passionne. Et je me suis dit, wow, Seigneur. Et là, Mathilde, elle se réveillait. Je lui en ai parlé. Ça m'a même tellement ému. Je n'arrivais plus à parler. Et tout ça, je pleurais sur la route et tout. Tellement ça m'avait touché. Je me suis dit, mais Seigneur, je te remercie tellement que tu donnes des choses à tes enfants qui sont passionnantes. Je croyais qu'il fallait que j'enseigne les nombres et tout. Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a des choses tellement bonnes qui sont réservées pour nous. Et pour faire fructifier ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais on y est. J'ai dû mettre toute mon énergie, ma passion et à dire, ok, est-ce qu'on peut mettre ça en place à l'église ? Et qu'est-ce que ça a fait ? Le point numéro 8 qui est noté sur le tableau, entrer dans son appel. Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on entre, chacun d'entre nous. Peu importe, ce n'est pas forcément un appel au sein d'un ministère de l'église, mais on a tous un appel. Notre travail, vous le savez, on l'a étudié aussi, on va le revoir encore plus dans quelques leçons, mais on a chacun un appel. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a 3 ans, la même parole prophétique, elle déclarait sur ma vie que j'avais un esprit d'entrepreneuriat sur moi. Et c'était incroyable parce que les temps juste avant, je priais dans ma chambre, je dis « Seigneur, je veux entreprendre !» Et je criais ça dans ma chambre, j'étais à mon bureau et tout ça, je dis « Seigneur, entreprise !» Et je m'avance le soir où il y avait les prophètes qui étaient là, premier mot qu'ils disent, etc. « Luc, t'as un esprit d'entrepreneuriat sur toi !» Je dis « Oh !» Et puis ils me connaissaient pas. C'était incroyable. J'avais le feu vert de Dieu pour ouvrir un business. Et un business, par contre, pour Dieu. Et ça, je me suis dit, waouh, Seigneur, j'ai trop envie. Et ceux qui me connaissent sont assez convaincus que je suis bouillant pour ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour faire fructifier ce que Dieu m'a donné ? Pour l'instant, j'en suis au stade de lire des livres et d'apprendre, de comprendre c'est quoi entreprendre pour Dieu. Parce qu'entreprendre de la façon du monde, il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut. Et moi, je dis, Seigneur, je veux que tu sois mon boss, c'est toi mon patron, je veux faire une entreprise selon toi et je veux vivre ce que tu veux que je vive. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Et c'est mon dernier point que j'ai noté sur mon tableau, le point 9, s'équiper. On a besoin de s'équiper, on a besoin de se former. Vous allez être peut-être dans une saison où, oui, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? Équipe-toi, va chercher. Là, vous êtes là ce soir, vous vous équipez. Et je crois que ça va porter du fruit plus tard. Tout ce que vous investissez, et c'est pour ça que je vous encourage, continuez, mettez votre énergie, peut-être du temps à part pour faire cette formation et apprenez, mettez des bases solides pour votre vie parce que ça va servir pour plus tard. Une fois que les fondations sont mises, Dieu peut construire dessus. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais une fois que ces fondations sont là, Dieu commence à ouvrir des circonstances dans nos vies et elles sont excellentes. le fait de s'équiper, et c'est l'encouragement que je vous laisse aussi, c'est de toujours rester enseignable. Le jour où on arrête d'être enseignable en pensant qu'on a tout, on a tout compris, on va plus avancer. Ça peut être logique pour nous, mais on a besoin de l'entendre. Et je crois que, oui, rester enseignable, c'est une des clés pour pouvoir progresser et pouvoir recevoir des nouvelles. Voilà, nos dons, ils ne sont pas amenés juste à être posés dans nos vies. Ils peuvent grandir, ils peuvent s'étendre, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent se perfectionner. Dieu peut nous dire d'aller dans une branche spécifique, etc. Et pour ceux qui veulent, qui sont dans le business, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Partenaire avec Dieu en affaires » de Denis Peacock. C'est un excellent livre et il me stimule à fond. C'est un entrepreneur chrétien américain aussi qui a fait ça, ce livre. Et il ouvre la réflexion sur plein de domaines et c'est vachement, vachement bon. Donc, partenaire avec Dieu en affaires. Le gars, il s'appelle Denis Peacock, c'est P-E-A-C-O-C-K-E. P-E-A-C-O-C-K-E. Ok. Donc je vous encourage, c'est pour ça que on a pris du temps sur le premier jour ce soir, je vous encourage à sonder vos aptitudes, vos capacités, vos talents, si vous êtes dans cette saison de vie comme je l'ai vécu. Parce que Dieu va vous donner des idées pour les développer. Commencez à juste dire « Seigneur, je veux recevoir », etc. Il va vous donner des axes, des points particuliers par où commencer, parce qu'on peut tous commencer par quelque part. Et je l'ai dit dans d'autres sessions, le miracle est souvent dans notre maison. Et c'est ce qui m'a un jour poussé à faire un blog. Je me suis dit, waouh, j'ai tout à la maison. Je peux m'asseoir à mon ordi et puis commencer à écrire, etc. Voilà, c'était une ressource que j'avais chez moi à la maison. Je n'avais pas besoin d'aller nulle part ailleurs. Je pouvais rester chez moi. Et vous allez, je le dis tout le temps, mais vous allez en voir des nouvelles bientôt. Voilà, je prépare et je mets du temps, mais ça va venir. Et je crois qu'ici à ESCP, il y a vraiment un potentiel. Je crois qu'on a chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose. Et j'aime trop penser que même si on, sans compter à la maison, sans compter au travail, etc., tout ce potentiel qu'on peut développer, si maintenant on le mettait ensemble, j'ai noté dans mes notes que justement en développant nos talents, on va muscler le cœur d'ESCP. Je voyais comme ça, comme un cœur qui. Un cœur, ça se muscle, c'est un muscle. Et plus on le muscle, plus il va envoyer et faire battre, et il va envoyer de l'air dans les poumons que finalement l'Église a besoin de remplir ses poumons d'air. Est-ce que c'était compréhensible? L'Église, c'est un muscle, c'est quelque chose que nous-mêmes on met en action, et ça va toucher, ça va rayonner plus loin et faire l'impact, je crois, que Dieu veut. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être épanoui, on va être heureux, parce qu'on sera pleinement dans nos appels respectifs. Ok, ça c'était, je voulais vraiment m'attarder sur ce point-là ce soir, et on peut avancer, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez des questions? On est toujours dans le jour numéro 1, et la question du livre qui disait... Si vous recherchez l'aide de conseillers, etc., lorsque vous prenez des décisions importantes, on l'a entendu tout à l'heure, vous avez effectivement parfois des difficultés à demander conseil, ou oui, plus de facilité maintenant à en demander. Souvenez-vous, on n'est pas décisionnaire en tant que conseiller, on est juste une lumière autour de la personne qui a besoin d'en recevoir. Ok. Si on peut avancer, ça va pour vous. Donc la dernière fois, on parlait du conseil, et ce soir, on va vraiment parler de l'honnêteté. Donc le deuxième jour, pour entrer directement dans le sujet, il y a quatre versets qui ont été posés. Lévitique 19, versets 11 à 13. Je me permets juste de demander sur le net, tout va pour vous? C'est OK? On va recevoir des réponses dans pas longtemps, je pense. Ok, vous suivez. Donc Lévitique 19, versets 11 à 13. « N'exploitez personne et ne volez rien. Ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insultez pas un sourd et ne mettez pas d'obstacle devant un aveugle. Mais montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur votre Dieu. » S'ils disent ça, c'est que des gens le faisaient. C'est un truc incroyable. Ça existe. Et ça se passe encore aujourd'hui, effectivement. Le deuxième verset, Deutéronome 25, versets 13 à 16. Vous n'aurez pas dans votre sac des poids inexacts, certains plus lourds et d'autres plus légers. Vous n'aurez pas non plus chez vous des mesures falsifiées, certaines plus grandes et d'autres plus petites. Vous ne devrez avoir que des poids exacts et des mesures justes. Ainsi, vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner. En effet, le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui commettent des injustices de ce genre. Il y a juste là, en parlant de ça, ça m'est venu il y a 3 secondes, j'ai entendu la semaine dernière une histoire d'un bûcheron ou d'un homme qui, je ne sais pas, dans le nord de l'Alsace, qui livre du bois aux gens pour la cheminée, d'accord ? Et il a trouvé une astuce pour falsifier ses mesures, c'est que si quelqu'un commande 3 tonnes de bois, c'est un certain volume dans la benne de son camion. Et ben, du coup, en arrosant les bûches du bois, en arrosant avec de l'eau, pardon, le bois devient plus lourd. Il y a pas besoin de mettre autant de bois qu'il ne faut pour avoir, par exemple, 3 tonnes. Et il livre ça à la personne facilement comme ça. Et puis, bref, il fait son affaire. Donc, c'est vraiment des points. Je sais ce qui m'est venu comme exemple. Il y a des gens encore aujourd'hui, effectivement, qui ont des astuces qui sont astucieuses, mais que Dieu condamne exactement. Troisième verset, Éphésiens 4, verset 25, plus court. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Et le dernier, c'est 1 Pierre 1, verset 15-16. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu vous a appelé à être saints. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint, je le répète. » Que vous disent donc ces versets sur les exigences de Dieu concernant l'honnêteté, c'était la question. Alors, les versets sont plutôt transparents. C'est pour ça que j'aimerais un petit peu avancer ce soir. Les versets sont transparents, mais j'aimerais qu'on puisse parler de ce qu'on appelle les compromis. Et d'après vous, qu'est-ce que c'est un compromis ? On entend souvent ce mot, ou on peut l'entendre dans les messages chrétiens, etc. Est-ce que quelqu'un a une idée, juste une définition courte de ce qu'est un compromis pour vous ? Non ? Ok. Je sais que vous savez, mais la définition qu'on peut y mettre... Et ce que j'ai recherché, étudié, je me permets d'avancer, Francine, c'est que quand on fait un compromis, on fait des concessions. Est-ce que vous comprenez le mot concession ? En fait, c'est-à-dire que quand on choisit de faire un compromis, on choisit d'abandonner un ou plusieurs avantages. J'ai bien aimé cette définition des concessions. En fait, on abandonne finalement un avantage qu'on aurait pu avoir. Et la phrase choc ce soir que j'aimerais vous laisser, c'est quand on fait un compromis avec l'honnêteté, on fait des concessions avec les promesses de Dieu. On pouvait avoir une promesse de Dieu qui était solide et ferme, on a choisi de faire un compromis et de ne pas l'avoir, de la laisser de côté, de l'abandonner finalement à quelque chose qui nous paraissait meilleur. Dieu a des promesses en réserve pour nous. Elles ne sont jamais à court. Il y a toujours de la matière, il y a toujours de la réserve. Et parfois, on choisit justement une voie qui n'est pas la sienne, pensant qu'il ne va pas pouvoir pourvoir. On va le voir plus tard. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, justement, « Luc, franchement, tu exagères, tu es trop honnête, tu es trop honnête. » Je fais « Ah oui, ok. » Mais le problème, en fait, quand on a conscience de faire un acte ou de faire un compromis en fait malhonnête, quand on en a vraiment conscience, parfois on ne s'en rend pas compte. Je ne vais pas dire que c'est bien ou que ce n'est pas un péché, etc. Mais c'est un petit peu, jusqu'à ce qu'on en soit vraiment conscient, c'est un petit peu moins grave, je vais dire. Mais quand on le fait vraiment délibérément et qu'on dit, wow, vous savez, c'est pas grave. On laisse finalement une porte ouverte au diable. C'est ça ce qui se produit. Spirituellement, on laisse un tout petit accès, peut-être le trou d'une aiguille. C'est vraiment pas grand-chose. Mais croyez-moi que le diable va vraiment, il va faire son œuvre. Il s'infiltre par le trou d'une aiguille, il n'y a pas de souci. Et il fait son œuvre si on lui laisse l'accès. C'est un choix, on a le droit de ne pas lui laisser l'accès. Et on a le choix de bloquer l'accès. En faisant quoi ? Des choix honnêtes, on va le voir. Et j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où, mais je vais vous dire. Un tout petit peu de malhonnêteté est semblable à une petite, très petite cellule cancéreuse, mais qui peut se multiplier à n'importe quel moment. On la laisse rentrer, elle est là, elle existe, pas dangereuse. Mais un jour, vu qu'on l'a laissée ou qu'on ne l'a pas traitée, elle peut se démultiplier et ça fait des maladies qui nous amènent même jusqu'à la mort. À ce moment-là, j'ai cette pensée de Ananias et Saphira, l'histoire vous connaissez, qui, mari et femme, ont vendu un terrain. Ils ont donné l'argent à l'église en gardant une partie, mais en disant qu'ils ont donné tout l'argent à l'église. Et bien sûr, les apôtres ont eu cette parole, ont une pensée de connaissance sur ce sujet et ont dénoncé vraiment un mensonge et ça les a amenés à la mort. Donc oui, ça peut être une cellule cancéreuse qui produit la mort, parfois très vite, et on doit s'en écarter. Et en fait, j'aimerais vous dire que vous ne serez jamais assez radical, trop radical dans l'honnêteté, parce que Dieu n'a pas de demi-mesure. Il est pas, il y a rien qui est juste borderline avec Dieu. C'est pas juste sur ce point-là, Dieu il est aussi juste, il est du bon côté, mais il est sur la ligne quoi. Il est pas loin de dépasser, mais il dépasse pas lui. Il est Dieu quoi. Non. Je crois vraiment que si on comprend vraiment que Dieu n'a pas de demi-mesure, on peut chercher à tendre à l'honnêteté, mais absolue, vraiment chercher. Il n'y a pas de trop honnête ou de « oh, t'exagères », etc. Non, non, non. Et au contraire, c'est un compliment si on vous le dit, parce qu'on voit en vous des choses qui sont bonnes. Donc je vous encourage à considérer ou peut-être reconsidérer l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Soyez saints, vous vous souvenez, je l'ai répété deux fois, soyez saints comme je suis saint. C'est le verset précédent qu'on a vu ensemble. J'aimerais qu'on prenne Jérémie 5, verset 1, qui n'est pas dans vos cahiers. Jérémie 5, verset 1 qui dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez bien, faites une enquête ». Cherchez sur les places si vous pouvez trouver quelqu'un qui agisse correctement, qui cherche à être honnête. Si vous en trouvez un, je pardonnerai à Jérusalem. Ça veut dire, en gros, ça va être difficile peut-être d'en trouver un. Faites une enquête. Sinon, il vous aurait dit, mais sortez, le premier venu, il sera honnête, prenez-le avec vous, il vous expliquera. Non, 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 c'était difficile quand il a écrit. Beaucoup de personnes dans ce monde sont corrompues, à petite ou grande échelle, laissent des choses... on va le voir tout à l'heure, laissent des choses rentrer dans leur vie qui ne sont pas bonnes. Parfois, c'est à leurs yeux pas grave, etc. Mais le passage de Jérémie 5, verset 1 nous montre deux choses. C'est que Dieu cherche dans ce monde corrompu des gens honnêtes. Il les cherche, il les veut, il va les chercher. Il va même lancer une personne, faire une enquête s'il faut. Et une enquête, vous savez que ça prend du temps, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y a vraiment une intention de Dieu de nous voir, ses enfants, être honnêtes. Et le deuxième point, c'est un seul homme ou une seule femme peut sauver une ville entière. Si à Jérusalem, il trouvait une personne honnête, c'est bon, je pardonnerai à Jérusalem. C'est bon, il y en a une au moins, c'est réglé. On peut faire la différence. Toi, là où tu te trouves, tu peux faire la différence dans ton village, dans ton travail, etc. Mais c'est un truc excellent. Juste une personne. Alors, vous imaginez, on est combien ? On est 15, 20, 100, les églises qui sont plus... Si chacun était trouvé vraiment honnête selon le cœur de Dieu, je crois qu'il y aura un impact qui serait extraordinaire dans nos villes. Et on veut toucher nos villes. Je pense que ça commence déjà par nous. Allons-y. Développons notre caractère, développons en tant que gérant fidèle, cette identité, ce caractère, cet attribut qu'on devrait avoir d'honnêteté absolue. Et voyons-en un peu plus de détails. Est-ce que vous êtes honnête jusqu'au bout des ongles, comme on peut dire? Est-ce que dans les toutes petites choses, dans les plus petits détails, est-ce que vous êtes honnête? Alors j'aime bien, ne répondez pas tout de suite, on va pouvoir afficher... le petit jeu que j'aimerais vous lancer maintenant. Sortez vos feuilles, c'est maintenant qu'on peut les prendre. Prenez des stylos, prenez des feuilles. Ceux qui sont sur le net, écoutez les questions ou les affirmations. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Vous allez pouvoir y participer aussi. Ok. On va essayer de le faire assez rapidement. Mais je crois que ça va être intéressant de passer par là. Alors, le but du jeu, tu peux envoyer la première slide. Le but du jeu, est-ce que vous voyez tous l'écran? Il est un peu petit, d'accord. Est-ce que vous pourrez faire une offrande ce soir pour acheter un écran plus grand pour l'église, s'il vous plaît? Alors, ça va arriver. T'arrives à l'envoyer peut-être sur... Non. Pas de signal. Bizarre. Ok. Alors, même sans la slide, je peux vous expliquer les règles. Je vais vous proposer des affirmations, des phrases, etc. qui vont... Ouais, si tu le fais en grand écran, juste pour qu'on voit. Donc, ça va être des phrases qui vont vous être projetées. Ah, voilà. Le jeu s'appelle Honesty. Je l'ai baptisé comme ça et tout. J'espère que c'est pas un... Ok. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Sinon, je le lance sur mon ordi. Vous allez voir de près, ce n'est pas un problème. Je vais le lancer sur mon ordi, Jean, c'est bon. J'y suis déjà. C'est bon, tu peux laisser tomber. Vous voyez tous à peu près? Ok. Donc, le jeu s'appelle Honesty. Qu'allez-vous mettre dans la balance? Je me suis un peu éclaté en préparant ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le but du jeu, c'est de répondre honnêtement, d'accord ? Pas besoin de regarder chez le voisin, etc., ce qu'il y a à noter, etc. Mais le but, c'est de répondre bien ou pas bien. C'est un peu un jeu enfantin, vous allez voir, etc., c'est marrant. Mais on va voir où c'est qu'on peut se positionner en tant que gérant fidèle, honnête, ok ? Alors, les propositions suivantes vont arriver, je vais les dire, je vais les citer. Sur votre papier, vous notez simplement numéro 1, bien, pas bien. Et à la fin, on donnera les réponses même à partir de chaque slide et vous verrez où c'est que vous vous positionnez, si vous avez une, deux, trois fautes, etc. Ok ? Allez, c'est parti. La première phrase, c'est « Chut ! Personne ne sait que j'ai donné 5 euros à cette pauvre dame dans la rue. » Selon vous, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je répète, chut, personne ne sait que j'ai donné 5 euros à cette pauvre dame dans la rue. Est-ce que d'après vous, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ok, vous avez pu répondre? Ok, c'était bien. Il n'y a aucun problème de pouvoir faire un don à une personne pauvre dans la rue, etc. Et personne n'a besoin de le savoir, finalement. On a fait un acte de générosité, ok ? C'est ce que ça voulait dire. Personne ne sait que j'ai donné 5 euros. On a le droit de donner... super, t'as réussi à l'envoyer. Vas-y, tu peux avancer. Ok, on en est. Encore un clic, voilà. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde a compris ? C'est parti, clic suivant. Encore. La caissière m'a rendu 30 cents de trop. Bon, on va pas chipoter pour si peu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ok, vous avez répondu. On peut envoyer. C'est effectivement, c'est pas bien. On est vraiment appelé à être des gérants fidèle, je le répète X fois, X mille fois, dans les très petites choses, c'est là où on va faire la différence. Oui, si une personne dit « Oh, elle m'a rendu 100 euros », alors les plus farouches diront « J'ai gagné 100 euros, ma journée elle est faite, je vous invite tous au resto », ou alors justement ils vont dire « Écoutez, vous êtes vraiment trompé de... » Mais c'est vraiment dans les petites choses qu'on voit si les gens sont vraiment fidèles. C'est dans les sous de ce montant-là, c'est là où on voit la différence. Parce qu'à l'inverse, peut-être que ça aurait été à votre avantage aussi, ou à votre désavantage, et un jour, vous aimeriez qu'on vous rende ce qui est injustement donné. Clic suivant. C'est OK pour tout le monde ? Les enfants, on va au zoo. Si on vous demande à la caisse, vous avez 6 ans. Alors, vous allez rigoler, mais j'ai tiré beaucoup d'exemples que vous allez voir de ma propre vie. Et oui, vous avez peut-être vécu la même chose, mais je l'ai vécu ça aussi. Les enfants, on va au zoo. Si on vous demande à la caisse, vous avez 6 ans. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que vous avez répondu ? Ok, on peut envoyer la réponse. C'est pas bien. Parce que l'intention de cette demande, c'est vraiment de tromper au niveau de notre âge, de tromper parce qu'on pourrait avoir peut-être un meilleur tarif, etc. Exactement. On apprend à l'enfant le mensonge. Ouais, super, c'est pour ça que je devais être fort en mensonge. Non. Bon. Slide suivante, super, s'il vous plaît. Ma voisine m'a donné 200 euros en cash pour les travaux chez elle. Je ne lui avais pourtant rien demandé. D'après vous, est-ce que c'est... Je n'ai pas entendu. D'après vous, c'est une bonne voisine, effectivement. Alors, est-ce que vous avez répondu ? Si c'est OK pour vous ? Tu peux envoyer la réponse. Oui, c'est bien. C'est bien, pourquoi ? Parce qu'on n'a rien demandé. OK ? On n'envoie pas une facture. On n'a rien demandé, bah c'est un petit cadeau, c'est un petit... Oh, bah elle aurait pu nous donner une tarte ou un gâteau, hein. Pas une tarte, mais un gâteau ou rémunérer d'une façon. Elle a décidé de le faire sous forme de monnaie, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est une bonne chose. Par contre, la mauvaise chose, c'est si on refait les travaux chez elle dans l'intention de recevoir de nouveau 200 euros et de le refaire et de le refaire, ça commence dans notre cœur à être une mauvaise source. Slide suivante. Ce week-end, je pars au ski en Autriche. Je vais imprimer l'itinéraire au boulot demain. Les réactions montrent que... Ok, si vous avez répondu, on peut envoyer la réponse. C'est pas bien. C'est pas bien parce que on utilise à des fins personnelles un matériel qui ne nous appartient pas, dont on n'est pas propriétaire, et pour lequel il n'a pas été mis à notre disposition. D'accord ? Et c'est quelque part même, alors c'est discutable, mais ça peut être du vol. Voilà. C'est dans les très petites choses qu'on commence à expérimenter le vol. C'est pas quand on va voler toute la cargaison de ramettes de papier. Mais si vous faites ça, peut-être qu'un jour, si on vous propose une ramette de papier ou si elle traîne, pour votre imprimante à la maison, c'est pas un problème de la prendre. Et je travaille sur ce point-là, et ça peut être sur tous les consommables qu'on a au bureau, etc., qui sont pas forcément pour ça. Ok, slide suivante. J'ai prié pour que Dieu pourvoie à mon repas, et dans la rue, le monsieur devant moi a perdu un billet de 20 euros de sa poche. Merci Seigneur! Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'ai prié pour que Dieu pourvoie à mon repas, et dans la rue, le monsieur devant moi a perdu un billet de 20 euros de sa poche. Merci Seigneur. On envoie la réponse. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien parce que on aurait peut-être pu. Voilà, on a vu qui c'est qui l'a perdu. On pourrait simplement prendre le billet, rattraper la personne et dire voilà, excusez-moi, vous avez perdu ça. Et peut-être, qui sait, que la personne pourrait même faire le don pour remercier ça, etc. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se produire, mais c'est pas honnête de le garder pour soi et d'en profiter. Slide suivante. Trop cool, j'ai trouvé 100 euros par terre, je vais pouvoir payer une glace à toute la famille. La famille est nombreuse. C'est la famille de Jean et Andrea, par exemple. Et puis, ils aiment les glaces, alors... Trop cool, j'ai trouvé 100 euros par terre. je vais pouvoir payer une glace à toute la famille. C'est ce que c'est bien, c'est pas bien, on peut envoyer la réponse. Bien sûr, c'est bien, il n'y a aucun problème. Si on ne sait pas à qui ça appartient, ben finalement, on l'a trouvé, on ne va pas les mettre à la poubelle, on est d'accord. Ça nous est arrivé avec mes parents quand on était à Las Vegas, on a trouvé 200$ par terre, dans une liasse comme ça, et on a pu profiter de ces 200$, et puis finalement, c'était cool, quoi. On a joué au casino, etc. Par contre, ça, c'était pas bien. Mais on ne le savait pas. Slide suivante. Arrête! Tu as le dernier album de Jean-Jacques Goldman? Tu peux me le graver, s'il te plaît? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais que ça va démanger. Tu as le dernier album de Jean-Jacques Goldman? Est-ce que tu peux me le graver, s'il te plaît? Ok, on peut envoyer la réponse. C'est pas bien. Les copyrights sont aux producteurs, etc. Et pourquoi on vend des disques? J'ai réalisé ça parce que j'étais un graveur de CD incontrôlé, et puis j'en avais tout plein, et j'ai dû juste comprendre que oui, si un jour, Luc, tu veux vendre de la musique, j'en sais rien, dans ton église, au studio et tout, ben, et que les gens y gravent tes CD, comment tu vas faire pour t'en sortir? Et ça m'a fait prendre conscience que oui, il y a des plateformes qui permettent d'acheter cette musique, donc en passant par un autre moyen, on n'est pas honnête. Finalement, on fait quelque chose de malhonnête. Slide suivante, c'est OK pour vous? Voilà, photocopier des livres, ça peut être tous les supports. Là, c'est un exemple, les CD, mais après, voilà, on va le voir. C'est vraiment sympa de m'avoir partagé ta vignette pour rouler en Suisse. Ça réduit mes frais. Je vous parle d'expérience, je l'ai fait. À vous de voir. Quelle est votre réponse? C'est parti. La réponse, c'est pas bien. Et je l'ai fait. Il y a une technique, je vous la dirai pas. Mais la vignette suisse se colle sur le pare-brise et quand on l'enlève, elle est censée s'arracher, se déchirer, etc. Bref, ça c'est quand on sait. Mais en principe, la vignette est pour une voiture. L'idée, c'est de chacun avoir sa propre vignette par rapport à son véhicule. Même si vous avez deux véhicules, vous êtes censé avoir deux vignettes. Voilà. Donc, bref, on est censé, c'est une loi en Suisse, etc. On est censé ne pas ignorer la loi et quand on se déplace à l'international, de connaître un minimum, etc. Et le fait de faire ça, ça réduit mes frais. Je suis d'accord, mais finalement, ou de copier la vignette, parce que j'ai vraiment eu déjà aussi le cas de frauder, etc. C'est de la fraude. C'est de la fraude. OK, slide suivante. L'agence de voyage a oublié de nous facturer l'hôtel. Je vais leur écrire un mail. L'agence de voyage a oublié de nous facturer l'hôtel. Je vais leur écrire un mail. On peut envoyer la réponse. C'est bien. Ça m'est déjà arrivé. Et finalement, s'il n'y a pas de réponse ou s'ils disent « écoutez, aucun problème », vous avez le bénéfice de la somme qui était due. Vous l'avez pour vous. Mais s'ils demandent à ce qu'il y ait un remboursement, etc., vous devez procéder à ça. Mais votre part, c'est de provoquer la demande. Et c'est très important de ça, parce que ne pas le faire, pourquoi on ne le ferait pas finalement? On a peur qu'on nous retire ces sous, etc., qui sont finalement dus. Et qu'est-ce que ça traduit dans nos cœurs? C'est ça le plus important, c'est de travailler notre cœur. Notre cœur, c'est peut-être de manquer, peur de manquer, etc. Donc là, c'est une bonne attitude et voyons la suite. On s'arrête pas là. Voilà. Suivant. Il y a 20 slides en tout, hein, rassurez-vous. Si le pasteur parle encore autant du Saint-Esprit, la prochaine fois, je lui dirai que ma dîme sera recalculée. Si le pasteur parle encore autant du Saint-Esprit dans ses prêches, la prochaine fois, j'irai vers lui, je lui dirai que ma dîme sera recalculée. sera recalculé. C'est triste, mais j'ai déjà entendu ça. Vous avez répondu, c'est bon ? On peut envoyer la réponse. Bien sûr, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du chantage. C'est il y a des cas où j'ai déjà entendu, pasteur, je te paye les études de tes enfants aux États-Unis ou peu importe, qui c'est très cher et tout. Par contre, tu sais, le dimanche, tu parles un peu beaucoup du Saint-Esprit ou un peu beaucoup sur ça. Faudrait un petit peu. C'est pas forcément tout de suite qu'il le disait, mais à terme, il disait, pasteur, tu sais qui c'est qui paye les études de tes enfants, tu sais, t'as déjà bien signé là et tu dis ah, c'est une bénédiction, merci Seigneur. Et attention par derrière, il y avait une intention qui n'était pas bonne et c'est ce que nous devons mesurer, les pots de vin et les choses comme ça. C'est très très délicat. On va le voir dans la leçon tout à l'heure. Super. Slide suivante. Merci Seigneur, Pôle emploi a dû faire une erreur et j'ai eu un salaire de plus. Quelle bénédiction! J'ai vécu aussi. Ok, tu peux envoyer la réponse. C'est pas bien. Dans la même pensée que pour l'hôtel, par exemple, on est censé juste de, ok, écoutez, faire un bilan ou dire, écoutez, voilà, vous êtes sûr, etc. Dans mon cas, je vous l'avais déjà expliqué, ça m'est arrivé. J'ai pas eu un salaire, mais j'ai reçu une somme suffisamment conséquente pour que je la détecte sur mon compte, etc. Et j'ai demandé des retours. J'aurais dit, écoutez, vous êtes vraiment sûr? On m'a dit, oui, oui, c'est un bon. Et moi, j'avais vraiment dans mon cœur que c'était une erreur. Donc j'ai réécrit en tout 3 mails. Et au final, voilà, c'était pour moi. C'était vraiment une bénédiction. J'ai pu le dire. Oui, quelle bénédiction, Seigneur, merci. Au final, quand j'ai fait ma part, ok, on a besoin de justement demander des retours. Je ne sais pas si la dernière, on peut envoyer un slide. Non. J'ai appris à mes enfants qu'une demi-vérité n'est pas une vérité. Est-ce que ça vous parle ? Ok, on peut envoyer la réponse. C'est très bien. C'est très bien. Parce que, oui, mais je connais des personnes qui sont très proches de moi, ma femme, je dénonce, mais on en a longuement parlé, etc. Parfois, une petite demi-vérité, c'était « Ah chérie, où c'est que tu en es là ? On avait rendez-vous. Ben, je suis en route. » Et finalement, elle sortait juste de l'appart où elle était. Mais oui, elle était en route pour elle. Elle était « J'y vais, quoi, je suis parti. » Mais pour moi, en route, ça veut dire déjà bien sur la route, etc. C'est jouer sur un mot ou sur un groupe de mots, etc. C'est une vérité, mais c'est plus demi-vérité que vérité. Et je crois que c'est pas bon. C'est pas bon. Et oui, l'enseigner à nos enfants, c'est bien. C'est pas un message pour moi et Josiane, mais oui, je crois que le fait de faire ça. Non, c'était vraiment pas un message pour moi et Josiane. Hein. Je les vois rire. Vraiment un peu moins. On peut envoyer la slide suivante. Ah, stop. Attends. Vas-y, prends le micro. Vas-y.
Je me rappelle quelqu'un qui disait, quand on lui posait la question, est-ce que cette personne est là ? Alors, il était à côté, mais l'autre disait, je suis pas là. Alors, il disait, je fais comme ça. Au téléphone, par exemple. Voilà, tiens ça. Voilà. Il disait, ah non, elle n'est pas là.
Il regardait dans sa manche et si elle était là ou pas. Non, elle n'était pas là. Voilà. Effectivement. Alors ça, c'est aussi voilà, à vous de mesurer. Mon comptable m'a dit que je pouvais faire du black à partir du 1er juillet. Alors, go ! Je suis entrepreneur. Mon comptable m'a dit que je pouvais faire du black à partir... Donc, fini de déclarer à partir du 1er juillet et toutes mes affaires, je les passe au black. À partir du 1er juillet, c'est parti. C'est pas bien, vous avez répondu, c'est bien. J'ai déjà entendu ça. Des experts comptables qui disent Et c'est dans ma famille, hein. J'ai des personnes qui entreprennent et tout. Et ils me racontent ça, ils me disent, mon comptable, lui, il m'appelle quand je peux commencer à faire du black et plus déclarer mes taxes, etc. Enfin, mes revenus et tout. Et c'est parti, tout dans la poche, tous mes chantiers, je les fais au black. Et ils me rappellent jusqu'à ce que la balance s'équilibre sur les... Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore, mais ce n'est pas bien, effectivement. On essaye de tromper le système et il y a une... Il y a une fraude derrière tout ça. Oui. C'est un comptable dans le sud de la France.